On parle cinéma à l'occasion de la 23e édition du Arras Film Festival qui ouvrira ses portes le 4 novembre et les fermera le 13 novembre. Pour évoquer les grandes lignes de la programmation, entretien avec Eric Millot, délégué général de l'association Plan Séquence qui organise cet événement. Interview réalisée avec la complicité de Bernard pour Radio PFM.
Avant de rentrer dans le détail du festival, nous allons parler du cinéma. Est-il en crise en France quand on voit que les salles de cinéma n'ont jamais été si peu fréquentées en septembre? Alors quelles en sont les causes? Quelles seraient selon vous aussi les solutions pour attirer à nouveau le public?
Alors déjà, je voudrais revenir sur une chose, c'est que je crois qu'on dramatise plus que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des spectateurs dans les salles, hein, faut pas l'oublier. Il y a des films qui marchent très très bien. Il y a beaucoup de nuances en fait à apporter à tout ça. Et puis, il ne faut pas oublier que les cinémas ils ont été fermés deux fois et qu'il a fallu remonter la pente une fois, une deuxième fois, c'est difficile, quoi. Et là, les indices sur la... Alors, il y a des côtés positifs, hein. Déjà, moi, je constate une chose, c'est... Bah, je ne sais pas, Plan Séquence a fait 3 rendez-vous en région, un à Lille, un à Douai et un à Arras, il y a quelques jours. Et sur ces 3 rendez-vous, j'ai une moyenne de 110-120 spectateurs. Donc, et beaucoup de jeunes. Moi, c'est le constat que je fais aujourd'hui. Les jeunes vont beaucoup au cinéma. On a perdu une grande partie du public senior qui a une tendance à revenir depuis la rentrée de septembre. C'est-à-dire qu'il y a des films comme le film de Christian Carion, Une belle course, qui redynamise un petit peu cet aspect-là. Et on voit revenir, en fait, et ça, c'est plusieurs exploitants de cinéma qui me l'ont confirmé, un certain nombre de spectateurs. Qui n'osaient plus revenir au cinéma. Donc il y a comme ça un redémarrage qui s'amorce. Les chiffres sont pas si catastrophiques, c'est sur le début fin septembre, début octobre. Et il faut se rendre compte aussi qu'on est dans une guerre terrible entre les cinémas français et les plateformes. C'est-à-dire que derrière ce qu'on entend à travers les médias, on a aussi un discours qui est véhiculé. Et je crois que ça arrangerait bien les plateformes que les cinémas ne marchent pas. Malheureusement, ils marchent. Hein. Quel pays au monde est capable de remplir une salle de 5000 places avec un film qui s'appelle L'étrange Noël de Monsieur Jack, il y a 30 ans, 40 ans le film. Là, ça vient de se passer à Lyon pendant le Festival Lumière. Et je peux vous assurer, je suis Lumière, je ne peux pas y être, mais je le suis parce que j'ai des actions sur place. Je mène des actions à distance, je dirais. Et je vois bien, toutes les salles sont complètes. Pour des films comme Remorque de Jean Grémillon, les années 30, enfin voilà. Donc, le goût du cinéma est encore présent chez les Français. Il faut maintenant redonner l'habitude, en fait, de retourner dans les salles.
Retour donc à ce 23e édition du Arras Film Festival.
Et cette année, donc, l'invité d'honneur, eh bien, c'est Valérie Donzelli, qu'on connaît évidemment sur le Arras Film Festival, parce qu'il y a eu plusieurs films qui ont été présentés. Donc elle sera là pour donner une leçon de cinéma. On rappellera un peu où ça se passe et les horaires après. Tu peux nous dire un petit mot sur Valérie Donzelli?
Oui, Valérie, c'est un peu... c'est quelqu'un qui nous plaît beaucoup, dans le sens où elle réalise un cinéma qui est assez atypique, qui est un peu fantaisiste. Alors ça déroute parfois, parce que je trouve que c'est un vrai auteur comique, déjà. C'est une auteur comique qui porte un regard sur la société, mais qui est à la fois poétique, drôle, enfin, aussi dans un certain héritage du cinéma. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien.
Et donc, elle donnera une leçon de cinéma le jeudi 10 novembre à 14h30 à l'Université d'Artois, Amphithéâtre Churchill. C'est en partenariat avec l'université et bien sûr, c'est gratuit.
Cette année, parmi les avant-premières, en soirée d'ouverture, Cœur de rocker, un film qui s'est inspiré d'une chorale senior de Dunkerque.
Salt and Pepper. Ouais. C'est un film un peu assez idéal pour ouvrir un festival comme le nôtre. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un film qui véhicule des valeurs qui sont assez proches des nôtres. C'est un film qui sème un peu la révolte sans trop l'affirmer et qui montre qu'il faut peut-être arrêter de s'enfermer dans des cases, mais que la vie, c'est aussi de faire des choses. Et je trouve qu'il y a une belle histoire à travers cette belle réussite. Hein. D'ailleurs, c'est une chorale qui a maintenant une certaine réputation et voilà. Et puis on va commencer en musique, je trouve que c'est pas mal pour cette 23e édition.
Cœur de Rocker, donc le film sera diffusé le vendredi 4 novembre à 20h au Casino d'Arras.
Après le film d'ouverture, on va passer aussi au film de clôture. Hein, voilà. Pour boucler un peu, c'est dans le cadre de ses avant-premières, Mon héroïne, de Noémie Lefort, un film qui m'a beaucoup intrigué, vu le sujet justement, parce que c'est assez atypique. On est histoire d'espèce de scénariste qui veut absolument rencontrer une star aux États-Unis.
Ah, c'est pas, ouais, enfin, c'est une jeune, hein, elle a 20 ans, et en fait, elle rêve de faire du cinéma, et elle s'est mis dans la tête d'écrire un scénario et de le confier à Julia Roberts. Donc, elle réalise d'abord un petit court-métrage dans lequel elle raconte, enfin, elle essaie d'expliquer ce qu'elle veut faire, et ce court-métrage, elle veut absolument que Julia Roberts le voie. Et donc, elle part avec son scénario, son court-métrage à New York pour essayer de la rencontrer, ou du moins de faire en sorte qu'on lui remette son projet.
Alors voilà, on dira pas tout, mais c'est une sorte de road trip jusque là-bas, et il y a des choses qui se passent. Voilà. Et il sera diffusé donc en clôture du festival le dimanche 13 novembre à 19h.
On garde la surprise pour la fin, parce qu'il y a quand même une surprise sur ce film.
Et donc, ce sera au Casino d'Arras.
Au programme du festival, il y a aussi l'un de mes réalisateurs british préférés, Stephen Frears, avec ce film The Lost King. Et il est situé dans la case Toile de Maître. Alors, ce sont vos coups de cœur de plan séquence ?
Non, c'est des films d'auteur, je dirais, de gens qu'on aime bien. Oui, c'est un peu des coups de cœur et des gens qu'on aime beaucoup et qui, bon, qu'on n'accueillera pas cette année, mais qu'on avait envie de mettre en valeur. Et je sais si on est attaché effectivement au cinéma de Stephen Frears. Hein. Et que, en plus, le sujet de son nouveau film nous intéressait beaucoup, et que c'est à la fois aussi, encore une fois, l'histoire de quelqu'un. Il y a beaucoup de films qui parlent, en fait, dans la sélection, qui parlent de gens qui vont au bout de leurs rêves. Et là, il faut imaginer que c'est une jeune femme, je dirais d'âge moyen, puisqu'elle a déjà des enfants. Elle est plutôt en procédure, en divorce avec son mari, et elle se prend de passion pour Richard III. Et parce qu'elle découvre la pièce de Shakespeare, puis elle dit mais c'est pas possible, ça peut pas être vrai. Donc elle est pas du tout historienne, elle est encore moins archéologue. Elle décide de tout mettre en branle pour retrouver la tombe présumée, parce qu'il est supposé d'avoir déjeté à l'eau et le corps disparu, mais de retrouver le corps de Richard III. Et c'est le sujet du film, et c'est son histoire, hein, c'est une histoire vraie. Hein, ils ont fini par trouver d'ailleurs le corps de Richard III, hein, sous un parking. Enfin, c'est un truc incroyable, quoi.
Ouais, ils en avaient fait aussi un documentaire, j'avais vu à l'époque. Ouais. Donc on pourra voir ce film le 6 novembre à 11h. Tous les ans, le festival organise une compétition européenne avec 9 longs métrages à découvrir.
Et ouais, et cette année, on retrouve quelqu'un qu'on connaît bien aussi sur le festival, Petr Vaclav, avec son nouveau projet Il Bohemo. Alors, Petr, c'est quand même un sacré personnage. Hein. On sait que son cinéma tournait beaucoup autour de la condition des Roms, notamment avec Sestaven, et puis d'autres films également. Et cette année, il est en compétition avec Il Bohemo, mais c'est un film qui n'a pas la même configuration que ce qu'il faisait habituellement.
Oui, parce que c'est un film historique et un film à costume. Après, il a déjà fait un documentaire sur le sujet, donc il connaît très bien le sujet, et il fait que mettre en image de façon fictionnelle ce qu'il a déjà approfondi. Parce que on va découvrir à travers ce film, Il Bohemo, on découvre un musicien qu'on ne connaît pas en fait. Mais c'est pas comme dans Amadeus, c'est-à-dire que autant que Salieri, je trouve que sa musique, là on est face à un grand en fait de la musique, qui est complètement oublié aujourd'hui, mais qui a été inspirant pour, par exemple, Mozart. Dans le film, on voit la rencontre avec Mozart. Et ensuite, ils ont entretenu une correspondance. Mais quand je dis Mozart, c'est Mozart qui a 6 ans, là, qui joue du piano dans les cours. Et donc, il le rencontre et il va se créer une relation. Et la musique de ce musicien qui s'appelle Joseph Misliwiczek, hein, voilà, on est parti dans les noms compliqués, mais Misliwiczek, c'est quelqu'un qui a fait une très très belle musique et qu'on redécouvre grâce au film. C'est ça qui est formidable.
9 films, et évidemment on ne va pas tous les citer, puis on va garder un peu de suspense. Par contre, vu le contexte politique, il y a un film ukrainien, Luxembourg, donc peut-être juste un petit mot sur la façon dont ça se passe aussi pour le cinéma ukrainien, une petite parenthèse pour dire que ça ne doit peut-être pas être évident pour eux, parce qu'ils sont obligés de se délocaliser pour pouvoir faire des tournages.
Alors, déjà, on n'a pas sélectionné le film parce qu'il est ukrainien.
Oui, oui.
Il y a une histoire entre nous et le film. C'est-à-dire que c'est un film qui a été proposé à notre plateforme de CoPro l'année dernière. Parce qu'on avait présenté son premier film, My Soul of Silent. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film, qui raconte l'histoire d'un preneur de son qui cherche, qui cherche des bruits d'animaux atypiques dans les montagnes. Et donc là, on se retrouve aussi à nouveau avec un sujet un peu atypique. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout de la guerre. Et, voilà. Et donc l'an dernier, ce projet-là, Luxembourg avait été proposé à notre plateforme, donc on avait un lien, voilà. Et il se trouve que le film a été sélectionné au Festival de Venise cette année, ce qui nous a beaucoup plu comme idée, parce que déjà ça nous fait plaisir, hein, c'est un film qui passe par notre plateforme puis qui ensuite est dans une sélection de Venise, c'est important. Et voilà, et on a proposé de faire la première française du film, et c'est avec plaisir qu'on va pouvoir présenter ce film qui parle pas du tout de la guerre, hein, pour le coup. C'est l'histoire de deux frères, c'est un peu décalé, enfin c'est un humour très particulier. Et ils sont en quête de leur père qui a disparu lorsqu'ils avaient 6 ans. C'est deux jumeaux d'ailleurs.
Alors quels sont les membres du jury de cette compétition européenne ?
Ben, on est heureux d'accueillir quelqu'un qu'on suit depuis le début, puisqu'on avait eu la chance de présenter son premier long métrage qui était Les Yeux Bandés. C'était au début, le festival était encore jeune à l'époque. Mais donc c'est quelqu'un qu'on avait accueilli, je n'ai pas cité son nom d'ailleurs, c'est Thomas Lilti. Donc le réalisateur d'Hippocrate, Hippocrate le film et Hippocrate la série, mais également de mes premières années, et puis de Médecins de campagne, hein, qu'il a tourné aussi dans la région. Donc c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup parce qu'on aime le cinéma, on aime sa vision des choses. Puis bon, c'est quand même un médecin de formation, c'est pas un cinéaste enfin il a pas une formation normale par rapport à certains réalisateurs, c'est pas une école, mais il est venu au cinéma par ce biais là et puis en plus c'est humainement, il partage aussi nos valeurs, puisque lorsque on a eu la première vague de Covid, il s'est réengagé quand même pour reprendre son métier de médecin pour venir aider ses collègues, et je trouve que c'est quelqu'un qui a des valeurs comme ça, c'est quand même formidable.
Dans les découvertes européennes, vous avez choisi de faire un focus sur le cinéma espagnol.
Bah oui, on dit toujours Arras et l'Est, bah non, on a aussi parfois le Sud. Et là, je trouvais que cette année, il y avait beaucoup de films espagnols intéressants. Donc là, on n'en propose que 3. Hein, on aurait pu en proposer beaucoup et malheureusement, on n'avait pas la place pour tous les mettre en valeur. Et donc, on a choisi 3 films très différents. Un film d'un jeune auteur qui s'appelle Josefina, qui est l'auteur, c'est Javier Marco, qui viendra à Arras d'ailleurs présenter son film. Et ça, c'est plutôt le jeune. Quelqu'un qui est vraiment un cinéaste en pleine progression, une cinéaste qui est Carla Simone et qui a eu l'Ours d'Or au Festival de Berlin cette année. Donc qui a déjà fait des films auparavant, mais qui était vraiment un cinéaste vraiment sur la pente ascendante. Et puis un réalisateur plus confirmé qui est Jaime Rosales, réputé comme un cinéaste très exigeant et qui pour moi fait peut-être son film le plus abordable pour le public, même si moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup sa réalisation. Les Tournesols sauvages, c'est un film très voilà, un portrait de femme à travers les hommes qu'elle rencontre, et je trouve que c'est un très beau film. Voilà, 3 aspects, je dirais, du cinéma espagnol.
Puis également, on va passer du côté espagnol, du côté du sud, à l'est, avec les Visions de l'Est. Hein. Donc une sélection de longs métrages inédits ou en avant-première, provenant des pays d'Europe centrale et orientale. Et cette année, il y a un film monténégrin, After the Winter. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas la première fois qu'on a un film monténégrin sur le festival.
Si.
C'est bien ça.
Oui, oui.
Tu peux nous faire un peu le pitch ?
Pour la première fois, on a un film de Macédoine du Nord et un
aussi,
film de Monténégrin. Le pitch, c'est un portrait de jeunes gens. Ils ont 25, 30 ans et ils ont fait l'école ensemble. Ils ont gardé des liens. C'est un peu... C'est pas un film de Claude Sauté, mais ça pourrait l'être, mais sur une génération, et quelle est leur relation à la vie actuelle, l'héritage aussi de la guerre. Hein. Même si le film parle pas de la guerre, on sent bien que ça pèse lourd dans leur vie. Et puis voilà, c'est disons qu'ils passent de leur adolescence à l'âge adulte, et c'est ce portrait. Voilà, et ça nous a intéressé parce que déjà, qu'est-ce que c'est d'être un habitant du Monténégro aujourd'hui, surtout quand on est jeune ? C'est ça qui nous intéressait, et il le fait avec beaucoup de talent, et c'est ça qui fait que c'est un très beau film. Et puis voilà, je crois qu'il faut aider ce cinéma aussi à être des découvertes. C'est important de montrer ces films qui viennent de ces tout petits pays, qui ont beaucoup de difficultés à produire, en fait.
Alors c'est un inédit, hein, et une première française surtout. Hein.
Oui.
Un autre inédit, deuxième film ukrainien, Klondike, où là, évidemment, on est plongé dans la région du Donbass, où là, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc, pareil, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots de ce film ?
Oui, ben c'est un film. Alors cette fois-ci, c'est plus tragique que le film Luxembourg-Luxembourg, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la situation. Il faut imaginer un couple qui attend un bébé, enfin la femme attend un bébé, et ils ont leur maison juste sur la ligne de séparation entre les séparatistes et puis ceux qui veulent rester en Ukraine. Et c'est toute la problématique qui se pose. C'est un film assez dur, assez fort. Qui se déroule sur des événements réels, hein, au moment où il y avait un avion, je ne sais plus, sud-coréen qui avait été abattu, là, il y a tout ça en arrière-plan. Enfin, c'est un film intéressant pour comprendre la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement.
Dans la sélection Cinéma du Monde, il y a un film qui pose aussi la question des victimes de la guerre, c'est-à-dire les civils, et c'est le thème du film Le Piège de Huda, un film palestinien.
Alors ouais, c'est plus insidieux que la guerre, quoi.
Ah
c'est qu'est-ce que c'est, je dirais, c'est plus une situation d'occupation, en fait. C'est-à-dire, c'est quand vous êtes aujourd'hui, vous pouvez être pris entre c'est l'histoire d'une femme qui est prise entre les services secrets israéliens et les services secrets, enfin pas les services secrets, mais la résistance palestinienne. Et à un moment, c'est quelle est la situation de la femme par rapport à tout ça. Mais c'est un film vraiment sur la manipulation, sur voilà, c'est assez prenant, c'est presque un thriller. Hein, parce que qui est assez, enfin on est face à un suspense, en fait. Hein, c'est comment elle va s'en sortir de cette situation, de ce piège, en fait.
Alors moi j'ai noté deux films également dans cette catégorie cinéma du monde, et une première, je pense, un film pakistanais, Joyland, qui m'a intrigué parce que c'est une histoire aussi complètement atypique.
Oui, alors je sais pas s'il faut trop en raconter. En gros, c'est. Alors déjà, c'est le film qui va représenter le Pakistan aux Oscars. C'est une surprise par rapport au sujet. Ça parle de la famille, ça parle aussi de la condition de la femme. C'est d'autant atypique que c'est l'histoire d'un homme qui travaille pas, en fait, qui est oisif. C'est sa femme qui préfère travailler, sauf que la famille, ça leur convient pas. Donc il finit par trouver un travail, et en fait, il va travailler dans un music hall. Et dans le music hall, il va rencontrer une danseuse qui, en fait, quelqu'un qui est transgenre, en fait. Voilà. Et donc c'est un sujet qui est quand même fort par rapport à la situation du Pakistan. Et c'est vraiment très beau, c'est très bien filmé. Enfin, c'est un film très très fort qui montre justement toute la complexité pour à la fois de vivre dans cette société et d'être un peu différent aussi dans ce monde-là.
Puis un deuxième film, et là on part du côté de l'Asie avec un film japonais, La famille Asada, qui est, il me semble que c'est tiré d'une histoire vraie.
Le photographe existe, ouais. Asada, c'est un vrai photographe, en fait. C'est quelqu'un qui est devenu célèbre en photographiant sa famille, mais au mieux de faire des photos basiques, il faisait des photos de mise en scène, c'est-à-dire qu'il reconstituait des moments de vie, voilà, la famille Asada, pompier, famille. Et ça a fait des photos, des portraits assez décalés. C'est un film très drôle, mais c'est un film qui bascule, c'est-à-dire qu'on s'amuse beaucoup, mais ça pose des vraies questions sur la vie, et puis il y a un moment dans le film, au milieu, là, il y a un basculement, parce qu'on est face à une tragédie, et ça oblige le photographe à revoir aussi son rôle et sa perception de la vie.
Et nous allons parler du Festival des enfants, un rendez-vous pour les petits et les grands, et une bonne occasion aussi pour découvrir du cinéma d'animation.
Et moi, j'ai deux films que je ne louperai pas, sûrement. Alors le premier, c'est Dounia et la princesse d'Alep, film franco-canadien, la guerre en Syrie, on y revient encore, mais façon à expliquer pour les enfants.
Oui, alors c'est la guerre en Syrie, puis c'est qu'est-ce qui arrive à ces jeunes, là, ces enfants qui sont obligés de partir. C'est-à-dire, c'est la question de l'exil, de la migration, mais vue de l'intérieur, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que pour comprendre cette problématique-là, se mettre à hauteur d'enfants, c'est assez génial, en fait.
Et puis, autre exil, mais cette fois-ci du côté de l'Italie, interdit aux chiens et aux Italiens. Un film, une coproduction, hein, France, Italie, Belgique, Suisse, Portugal, qui raconte un peu, évidemment, au début du XXe siècle, cette espèce d'exode que les Italiens ont fait pour passer les Alpes et arriver en France pour travailler.
Oui, Alain Huguetto raconte l'histoire de sa famille, en fait, à travers ce destin, et comment, qu'est-ce que c'est d'être à nouveau, d'être déraciné, de pas être désiré. Il y a toute cette question-là qui peut se poser à quelqu'un qui a immigré, en fait. Hein. Donc le film le pose très bien, il le pose à travers une histoire, et c'est une animation qui est très très belle, en fait. C'est vraiment un très très beau travail d'animation. On n'est pas du tout dans le dessin animé, là, on est des petites marionnettes, c'est vraiment très beau.
Et puis, juste un petit mot peut-être sur ma première séance, parce que c'est quand même un cinéma qui est assez jeune. Hein. C'était assez rare de voir maintenant des films qui sont proposés vraiment pour les tout petits.
Ah oui, parce qu'une première séance, c'est un grand moment. Donc, on a envie de sacraliser un peu ce grand moment. C'est-à-dire, on a tous eu une première séance au cinéma, bah, qui ne s'en souvient pas. Là, on les prépare un petit peu. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dès 18 mois, 2 ans, on accueille les enfants avec leurs parents. On les met en condition, on les prépare tout doucement. Alors, c'est pas des programmes trop longs, hein, c'est des courts-métrages, des petits courts-métrages, et puis on tamise un peu la lumière, enfin ça le son un peu moins fort, et l'idée c'est qu'à la fin ils repartent avec un diplôme, donc ils vont se souvenir comme ça à vie de leur première séance. Je sais pas si c'est eux d'ailleurs qui vont se souvenir plus ou leurs parents, parce que quand on voit le visage des parents...
c'est ça qui est intriguant.
Et des grands-parents parfois, parce qu'on vit en famille aussi.
Ouais, ouais, tout à fait. Donc un film d'animation, cette fois-ci français, du studio Folle Image, des fidèles de ce festival. Un studio situé à Valence qui propose du film d'animation depuis 25 ans. Et cette année, donc, ils reviennent avec un film autour de Noël. C'est Opération Père Noël.
Oui, ben c'est, voilà, on est dans la bonne saison, hein, on est prêt à parler de ces films. Voilà, c'est un film tout délicat, enfin, vraiment un très beau travail de graphisme. C'est vraiment le film idéal aussi pour les enfants et les tout-petits, hein, de découvrir comme ça des belles histoires bien racontées et avec de très très, très beaux dessins qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir à l'écran en matière de graphisme aussi.
Pour terminer la présentation du festival, on rappelle que vous pourrez retrouver aussi une rétrospective sur des films autour du thème Victoria, une reine, un empire, une carte blanche aussi de la revue Positif.
Qui fête ses 70 ans. Donc c'est eux qui ont choisi, qui ont fait...
Bon, on les a choisis ensemble, ouais. C'est-à-dire ils nous ont mis plusieurs... Parce qu'en fait, on était cadrés par le fait qu'il fallait que le film, il était en couverture de Positif. Alors Vaïda, c'était facile parce que dans les années 50, il a eu 3 fois la couverture. Parfois c'était plus compliqué, puis surtout il fallait alterner un petit peu, et donc on a des films qui sont assez connus, hein, mais on a des vrais films très rares en fait. Je pense par exemple à Une affaire de cœur, la tragédie d'une employée des PTT. C'est un film de Dusan Makaveyev, qui est un réalisateur yougoslave, à l'époque yougoslave, hein, c'est un serbe en réalité, mais yougoslave, qui était vraiment quelqu'un qui a eu des prix à Cannes. Enfin, c'était, aujourd'hui on l'a un peu oublié. C'est quelqu'un de très atypique, voilà, un humour comme on aime bien. On a été retrouvé aussi en Roumanie le film, le deuxième long métrage de Lucien Patillet, qui s'appelle La Reconstitution, ouais, qui est un portrait très intéressant de la Roumanie de Ceausescu. C'est un film, à partir de ce moment-là, il a eu beaucoup de soucis d'ailleurs avec le pouvoir. Donc à travers ça, puis après on a des films un peu plus connus, hein, comme La double vie de Véronique ou Le temps des Gitans, ouais. Magnifique film de Kusturica.
Et puis il y aura aussi un ciné-concert et des after musicaux. Ce sera toujours au village du festival, toujours situé sur la grande place d'Arras. Quelques conseils pour réserver ces places ?
Ben oui, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, c'est-à-dire que il y a deux possibilités, hein. Soit qu'on vient sur place au Mégarama où on a un accueil, un bureau spécial avec pour accueillir les spectateurs, et sinon on peut les réserver sur internet. Alors d'abord les passes et les abonnements, puis le film d'ouverture, et ensuite à partir du 27 octobre, on pourra réserver l'intégralité des films en ligne.
C'était un entretien avec Éric Millot, délégué général de l'association Plan Séquence, qui organise la 23e édition du Arras Film Festival du 4 au 13 novembre prochain. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le www.arrasfilmfestival.com et restez à l'écoute de PFM pour écouter des interviews, des chroniques réalisées au cours de cet événement, et tendez bien l'oreille pour éventuellement gagner des places pour le festival.